العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, que veut dire التزكية en deux mots rapidement, on ne va pas entrer dans les détails. C'est le fait d'établir un lien entre l'action et l'intention. التزكية النفس consiste à établir un lien entre l'amal ou النية, entre l'action et l'intention. C'est-à-dire l'intention sincère dirigée vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens qui permettent de réussir la tazkiya, c'est la multiplication de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah. Il faut qu'on s'entraîne. Moi je dis, notre professeur parmi ses recommandations, c'est que d'avoir toujours la langue fraîche par l'évocation de Dieu. Alors comment est-ce qu'on le fait? On le fait par exemple en marchant. Au lieu de penser en rien ou en n'importe quoi, je m'habitue en marchant à dire la ilaha illallah. Au fond de vous-même, vous répétez ça. La ilaha. Il ne faut pas compter, laisser votre langue fonctionner. Puis je change. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je répète ça. Je m'habitue. Wallah al-Azim, je vous assure que lorsque vous prenez l'habitude, lorsque vous vous trouvez dans des moments de silence, vous-même vous dites pourquoi je n'évoque pas Dieu. Ça devient comme quelque chose de nécessaire. Toujours, je cite cette parole des Ahl-Dhikr parmi nos savants. Ils disent l'évocation de Dieu, au début, c'est une kulfa. C'est comme si tu le fais malgré toi. Ils disent Dhikru awwaluhu kulfa. Tetkallaf. Tu le fais malgré toi. Wa akhiruhu ulfa. Et à la fin, il devient une intimité. Au début, c'est un acte que tu fais vraiment comme si ce n'est pas naturel. Et puis avec le temps, ça devient quelque chose de vraiment de nécessaire parce que ça devient une intimité. Donc ils disent Dhikrullahi. C'est très beau et c'est une vérité. Dhikrullahi awwaluhu kulfatun. Comme une charge. Kulfa. Wa akhiruhu kulfatun. Au début, c'est quelque chose tatakallafuha. Tu ne le fais pas naturellement. Et puis après, ça devient quelque chose nécessaire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain un tout. C'est un tout. Il y a une relation entre les organes et entre les différentes aspirations et tout ce que l'être contient. Au début, lorsque vous faites le dhikr, comme si votre cœur n'est pas à l'écoute de votre langue. Mais avec le temps, votre cœur va être à l'écoute de votre langue. Et un lien se tisse entre ce que vous dites et ce que vous sentez. Mais il faut du temps. Et donc prenez cette habitude lorsque vous êtes en voiture, ou lorsque vous circulez seul, ou lorsque vous êtes assis à la maison sans rien faire. Sabbah hafkurullah. Par les évocations que le prophète sallam nous a transmises, léguées. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh. Et ainsi de suite. Et vous allez voir comment, lorsque vous ne le faites pas, quelqu'un dans l'intérieur de vous vous dit hey, il faut faire le dhikr, c'est nécessaire. Parce que ça arrose le cœur. C'est nécessaire, c'est clair? Donc, premièrement, il s'agit d'établir un lien entre l'amal et l'niya. Ça, c'est la première démarche de la tazkiya. Deuxième, un moyen qui va permettre que cette connexion se fasse efficacement, c'est que vous évoquez Dieu en permanence. Subhanahu wa ta'ala. Se repentir. La tawbah n'est pas forcément parce que vous avez commis un péché. La tawbah, en arabe, la tawbah veut dire l'inabatu, le retour. Taba ayraja'a, il revient. Et donc c'est comme même parfois parce que vous avez négligé Dieu, entre guillemets. Alors vous allez vous mettre sur les rails de nouveau, je reviens. Donc la tawbah n'est pas forcément parce que vous avez commis un péché. C'est un rappel. Est-ce que notre prophète péché, alayhi salam, et il n'a pas dit qu'il demandait pardon à Dieu 100 fois par jour? Il n'a pas dit qu'il se repentait à Dieu 70 fois par jour. C'est pas parce qu'on a fait un péché qu'on se repent. Même si on n'a pas fait un péché, on se repositionne. C'est pour ça qu'il y a une étude qui a été faite par un frère qui s'appelle At-Tawbatu. Il dit que c'est un moment d'éveil. At-Tawbatu hiya lahdatu yaqdha. C'est comme si le cœur est tombé dans la négligence et il se réveille. C'est ça la vraie notion du repentir. Et donc, pas forcément parce qu'on a commis des péchés. Parce qu'on s'est trouvé dans un moment d'insouciance, de négligence. Et alors, on fait un retour. Prenez-le dans ce sens-là maintenant. Parce que taba, c'est synonyme de raja'a wa anaba. Il était dans cette direction, il revient. Là, mon cœur s'est éloigné et je reviens. Et puis, après, on va vers la définition que vous connaissez de taba, c'est suite à un péché. Ça va? Donc, ça, c'est pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a insisté. Maintenant, lorsqu'il y a taouba, réel d'un péché commis, vous savez très bien, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une cessation tout de suite de l'acte interdit, un regret profond, résolution de ne plus revenir. Après vient l'estighfar. L'estighfar ne se fait pas avant taouba. Je me repens selon la définition proposée, qui est sur laquelle il y a unanimité, puis je demande pardon. Je ne demande pas pardon alors que je suis encore en train de commettre l'acte interdit. C'est clair ? Insan yatoub, yatawakaf, ya'oudu, yarja' ila Allah, thumma yastaghfirullah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la règle, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Madarij al-Salikin. Il faut passer par cette étape-là. J'arrête, je regrette, résolution de plus revenir, et je demande pardon. Alors, lorsque je demande pardon, je vais le demander d'une manière efficace, pratique. Je vais suivre les mauvaises actions par des bonnes. Il faut faire l'acte. Et non pas, astaghfirullah et je reste. Parce que là, on va vouloir sortir du péché par l'accroissement de la valeur de notre foi, et qui est la dominance en vérité du bien en nous, plus que le mal. Alors là, on va appliquer le hadith de la Rasulullah sallam, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'efface. C'est clair? Et notre prophète sallam a indiqué, il a donné conseil à cette compagnon-là qui est venu dire à Rasulullah, halakt. Je suis perdu parce qu'elle a embrassé une femme étrangère pendant le jour de Ramadan. Qala lahu sallallahu alayhi wa sallam, le hadith que vous connaissez. Qala, est-ce que c'est pour moi spécialement? Dit non, pour toute ma communauté. Et là, vous voyez la sunna, elle vient élargir une sentence qui est spécifique. Elle a fait, elle a rendu une sentence générale. Kana hukman khasan est devenu hukman amman. Donc, l'évocation et donc la multiplication des bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est un terme général qui englobe tout ce qui plaît à Dieu subhanahu wa ta'ala et rapproche de lui. Voilà ce qu'on peut dire, si je vais conclure rapidement pour ne pas entrer dans les détails. J'aimerais bien vous dire comment, qu'est-ce que le Rasoul Salam a fait de ses compagnons, comment lorsqu'ils ont suivi ce cheminement résumé qu'on a fait là, quelle qualité d'homme était-il devenu et de femme. C'est Abdallah ibn Mas'ud qui nous décrit les compagnons de Rasulallah. Il dit ceci. Il dit, celui d'entre vous qui veut suivre quelqu'un qui suit les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient les gens les plus pieux. Ils étaient les gens qui avaient les cœurs les plus sensibles. Ils étaient les plus savants. Et ils étaient les gens les moins compliqués. Takallaf n'existe pas dans leur façon d'agir. C'est naturel. Et puis il dit, radiallahu anhu, ils étaient les gens les mieux guidés. Et les gens qui avaient la meilleure relation avec Dieu. En permanence. Il dit encore, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour l'accompagnement de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour instaurer sa religion, reconnaissez-leur leur valeur et suivez leurs traces, parce qu'ils étaient sur le droit chemin. Parce qu'ils étaient sur le droit chemin. Donc c'est dans le sens décrit les compagnons de Rasoul Sallam. Et donc vous comprenez que ça veut dire l'éducation qu'a donnée Rasoul Sallam lorsque vous voyez toutes ces qualités. Nous, on veut être des modèles. Alors que l'on suive avant tout leurs traces. Qu'on suive leurs traces, après on peut servir à notre échelle, qui est très petite, à les autres. Ça va ? Wallahu a'lam pour ce qui est de ce point. J'aimerais bien maintenant vous parler d'un fléau et d'un danger que guette tout individu qui veut travailler pour Dieu et qui veut travailler avec les autres. C'est l'amour du pouvoir ou du leadership. Je n'ai pas dit que le leadership, il ne faut pas qu'il soit. Non. Mais lorsque ça devient hubbon, alors là, ça devient une catastrophe. Il ne faut pas dire j'aime le pouvoir. Lorsqu'on te nomme, c'est en vérité, c'est une charge lourde de conséquences et qui doit vous effrayer. Et non pas, je suis honoré. Car sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma dhabani ja'i'ani, deux loups affamés, lâchés sur un enclos de brebis, commettront moins de dégâts que l'amour du pouvoir et de l'argent sur la religion de l'un d'entre vous. Hadith, il est connu, rapporté par Muslim et les autres, et Ibn Rajab al-Hanbali l'a explicité dans un petit livre. Il a expliqué tout le hadith dans un livre. Hadith, ma dhabani ja'i'ani, deux loups affamés, lâchés dans un enclos de brebis. Vous imaginez, l'endroit il est fermé, on lui dit, allez-y. Il ne va pas commencer à manger d'une manière systématique, hein. Je mange la première et la deuxième. Non, il va sauter sur celle-là, l'écorcher, la laisser mourante. Il va manger uniquement peut-être que la cuisse de celle-là, puis la laisser comme ça. Il va détruire tout d'eux. Et dit, les dégâts qui résultent de leur action est de moindre gravité lorsqu'on la compare sur les dégâts que cause l'amour du pouvoir et de l'argent. Sur la foi de l'un d'entre vous. Il a dit l'iman. Donc, Ibn Abi Hatim a rapporté qu'un homme a dit, ya Rasulallah, je participe à des batailles pour Dieu, mais j'aime aussi que les gens me voient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu jusqu'à ce que Dieu a révélé le dernier verset de la sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانِ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il a dit que je le fais pour Dieu, hein. Il n'a pas dit que je le fais pour moi-même uniquement. Il a dit je le fais pour Dieu, mais j'aime que les gens disent Masha'Allah. Il le fait pour Dieu, mais Masha'Allah. Alors le prophète lui a dit ce hadith, le hadith comme j'ai dit rapporté par Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim al-Razi était connu, un grand muhaddith. Le docteur Kharoubat, il a fait sa thèse de doctorat sur Ibn Abi Hatim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam, je n'accepte la prière que de celui, lorsqu'il l'accomplit, il l'accomplit par modestie envers ma grandeur, et qui n'agit pas avec ostentation envers ma création, et qui, en permanence, a peur de moi, et qui passe sa journée à m'évoquer, et qui maîtrise ses passions. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala veut que l'acte d'adoration, donc le fait qu'on prie, qu'on fait des actes surrogatoires, des actes, tout ce que vous voulez, si ce n'est pas par humilité envers Dieu, ils ne seront pas acceptés. إِنَّمَا تَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مَمَّنْ تَوَابَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي. Il prie parce qu'il veut exprimer sa petitesse, son humilité, sa soumission devant la grandeur de Dieu. Cette prière, elle est acceptée. Mais si ce n'est pas le but, si ce n'est pas ça qui pousse la personne à prier, ça ne sert à rien de prier, on perd son temps. Et il n'a pas limité au fait de prier pour Dieu, il a dit, le hadith, il dit après, tu peux dire je prie et j'ai peur de Dieu, mais tu as une attitude d'ostentation envers la création de Dieu. Et bien la prière n'est pas acceptée aussi. C'est clair ? Donc, l'amour du pouvoir et du leadership est quelque chose de grave. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans un hadith, il a dit demandez à Dieu de vous protéger, de vous préserver du puits de l'Hazan. Un puits qui s'appelle l'Hazan. C'est dans en enfer que Dieu nous en préserve. Les enfants et les compagnons, ils ont dit à Rasulallah, et c'est quoi le puits de l'Hazan? Il a dit c'est une rivière en enfer. Même l'enfer lui-même demande protection de Dieu contre cette rivière 100 fois par jour. Jahannam, tasta'idu billahi min jubb al-hazan. On dit, ya Rasulallah, et qui va payer donc ce prix-là? Ya Rasulallah, qui va payer ce prix? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui se comportent avec ostentation, c'est-à-dire ceux qui vont brûler dans ce puits de l'Hazan, ce sont les individus qui se comportent avec ostentation. Voilà, c'est-à-dire comment il faut. Donc, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Hum al-mura'una bi-a'malihim » C'est ceux qui, lorsqu'ils font quelque chose, ils la font pour que les gens les voient. Et il a cité parmi eux « Al-Qurra ». Al-Qurra, qui veut dire, c'est des ulama. Pas lecteur du Coran, ici. Al-Qurra, dans le temps, c'est-à-dire « Alim ». Donc, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a réservé pour « Al-Qurra ». Ils payeront dans ce « Jubb al-Hazan ». Alors, l'amour du leadership, de la notoriété, ne peut pas aller de pair avec la philosophie de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala accordera à chacun les degrés qu'il mérite. Si tu agis avec une attention pareille, tu auras le mérite et les degrés que tu mérites. Si tu agis par sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera selon votre mérite aussi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous confie une charge par laquelle vous allez être au service de votre prochain, en vérité c'est un bienfait de Dieu. C'est un bienfait pour lequel vous devez louer Dieu et non pas dire « Ah chouette, je suis chef ». Non, parce qu'on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Khalqo », la création est-elle, on dirait qu'elle est la famille de Dieu. Et le meilleur d'entre cette création que Dieu aime, c'est celui qui est au service de sa famille, c'est-à-dire de la famille de Dieu. Donc si Dieu te met au service de sa famille, sa création, c'est-à-dire en vérité c'est un honneur qu'il te donne, Dieu, et alors tu dois être plein de gratitude et non pas que tu vas l'utiliser pour toi-même. Parmi les bienfaits de Dieu, c'est qu'il te donne cette responsabilité. Et lorsqu'on te donne cette responsabilité, alors Dieu nous envoie un avertissement très dangereux, très grave, qui fait peur. Il a considéré celui qui ne s'acquitte pas de cette charge, comme cela convient, comme un traître. Ne soyez pas traître envers Dieu, envers le messager, et ne vous comportez pas en traître envers les dépôts qu'on vous a confiés. Donc c'est une khiyana. Si tu ne fonctionnes pas dans le cadre de la mission qu'on t'a donnée, comme Dieu le veut. Et ça fait peur, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle le samahallah quelqu'un de traître. Le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala installera comme une sorte d'étendard, yom al-qiyamah, à tout traître, par lequel il va se reconnaître dans la création. C'est vrai qu'il y a un aspect, on va dire, concret. C'est l'évaluation qu'on fait par rapport au but, objectif fixé. Ça, c'est d'une manière, on va dire, parler d'une manière pratique, terre à terre. Maintenant, la conséquence, est-ce que ce que tu as préconisé a réussi ou non? On ne te le demande pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne te viendra pas rigueur. Est-ce qu'il y a eu succès, réalisation des objectifs escomptés? Ce n'est pas ce qu'on te demandera. On te jugera, est-ce que la démarche a été faite dans un but pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala? Et la preuve, قال صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. C'est ni dans ta dit tout à l'heure qui est importante. Pour qui tu fais? C'est pas est-ce que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque les compagnons qui ont été envoyés dans la bataille de Mu'ta contre l'armée byzantine, il y a les quatre, il y a eu le martyr des quatre commandants, et c'est Sayyidina Khalid Walid qui a pu prendre la relève pour sortir l'armée de ce guet-apens. Lorsqu'ils sont arrivés à Madina, ils étaient battus, entre guillemets, si on va parler en termes terrestres. Et les Médinois ont commencé à les traiter de furra, les fuyards. C'est Namran a dit, mais non, il a dit, laissez le furra, humul korra. C'est pas les fuyards, c'est ceux qui vont réattaquer. Donc le prophète n'a pas tenu compte du résultat, il a tenu compte de la qualité. La défaite de Mu'ta n'est pas comme la défaite de Uhud. La défaite d'Uhud, c'était une désobéissance à Dieu, à son prophète, pour des raisons terrestres, le butin. Ben Mu'ta et les musulmans ont fait ce que Dieu leur a demandé. Et le fait qu'ils se sont dégagés, désengagés, sans avoir gagné la bataille, on va dire réellement, le prophète a considéré ça en lui-même une victoire. Donc l'islam ne te demande pas est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu as, dans ton intention, tu agis comme cela plaît à Dieu subhanahu wa ta'ala. J'insiste, je répète, on fixe des objectifs dans sa vie ou dans la vie du groupe et on n'arrive pas à les réaliser. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas nous tenir compte, est-ce qu'on a réussi à mettre sur pied un état, comme certains pensent là, les erreurs qu'ils ont fait. Non, les moyens utilisés, la finalité recherchée, est-ce qu'elle était conforme à ce que plaît Dieu subhanahu wa ta'ala? C'est tout ce qu'on te demandera. C'est tout ce qu'on te demandera. Seigneur, j'ai fait. C'est normal lorsqu'il a, il est arrivé à un moment où il ne savait plus, parce que le territoire musulman est devenu tellement vaste, et qu'il avait le souci de tout musulman, de toute musulmane, et même des bêtes. Il a dit, Seigneur, Omar est devenu incapable. Seigneur, prends-le auprès de toi. Et il est mort de son année, radiallahu anhu. Parce qu'il a considéré que la charge était devenue tellement lourde qu'il ne pouvait pas l'assumer. C'est trop haut pour lui. Nahna, on a des charges, il faut se chercher le soutien de ses frères. C'est très important, demander leur conseil. Et d'accord, Allah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit, wa shawirhum fil amri. Consulte-les dans tes affaires. Le prophète, il n'a pas besoin de consultation. Elle n'est pas mulzima pour lui, Shura. Et il l'a fait. Que dire de nous? Et lorsqu'on consulte, ce n'est pas une faiblesse. Et lorsqu'on vous consulte, ce n'est pas que le frère choisi, il est mauvais, il est incapable. Pas du tout. Pas du tout. لأنه لا خاب من استشار ولا خاب من استشار من استخار لا خاب من استخار ولا خاب من استشار. Celui qui demande consultation à Dieu ne sera jamais déçu. Et celui qui demande avis à ses frères, il ne sera jamais déçu. El khatar, c'est l'atidat bil-ra'i. C'est lorsque chacun dit mon avis et je ne vois personne d'autre. C'est ça le danger. Maintenant, l'examen de conscience, c'est si nous sommes sincères ou non. Ça, on le sait. Et là, vous n'avez pas besoin de mufti ni de tabib. Consulte ton cœur. Il te dira la vérité. Parce qu'on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas se mentir, on sait. C'est clair? Donc voilà comment... Mais je répète et j'insiste, c'est pas la non-réalisation de l'objectif qui montre qu'il n'y a pas de sincérité, pas du tout. Dieu peut permettre la réalisation d'objectifs par lesquels il induit les musulmans dans l'erreur parce qu'ils n'étaient pas sincères. Alors il leur donne, puis après, c'est la débâcle. Et puis Dieu, subhanahu wa ta'ala, refuse de donner, alors que c'est la certitude et c'est la vérité. Mais parce qu'il faut aussi tester. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a préparé Sayyidina Muhammad à la révélation à l'Ouahi par 3 années ou 2 années de corrupture. Vous connaissez la fatra, le fatra, on appelle ça. Où il y a eu rupture de la révélation après que le prophète a rencontré l'ange Gabriel, puis hop, arrêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans un état de désespoir que, après avoir goûté à cette rencontre céleste, il n'y a plus. Et tout le monde dit parce que Dieu voulait le préparer, et la preuve, il lui a révélé. On va te donner, te révéler une parole très lourde de conséquences. Il faut qu'il soit prêt à l'assumer. Très lourde. Donc, mais c'est très bien d'avoir peur. C'est très bien d'avoir peur. Parce que si on n'a pas peur, alors là, il y a un danger. Si on n'a pas peur, il y a danger. C'est une responsabilité, c'est pas un honneur, c'est une charge grave. Et ne peuvent s'en défaire que ceux qui la font ou sont acquittés avec d'une manière qui plaît à Dieu. Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu appelle tout cet individu musulman à qui on confie une charge de toujours rester modeste. D'être toujours modeste à l'écoute des autres. Il a dit, Ali radiallahu anhu, lorsque l'individu, lorsque le serviteur agit modestement envers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala élève son degré de sagesse. Rafa'a Allahu hikmatahu. Et lui dit, sois heureux. Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. Et lorsqu'ils agissent avec ostentation et avec exaction, Dieu le fait rabaisser vers le sol et lui dit, sois méprisé. Il est en lui-même grand, mais il est dans les yeux des gens petit. Vous voulez mesurer votre qualité, entre guillemets, c'est pas pour vous rendre malade. Regardez ce que les gens bien pensent de vous, pas les gens tout court, les gens de bien. Si les gens de bien pensent de vous du bien, ça va, vous êtes sur le bon chemin. Si les gens du bien, ils ont une hésitation ou quelque chose, alors là, vous devez vous remettre en question. J'ai dit les gens du bien. Donc, le prophète a dit, c'est normal, a dit après cela, il devient tellement méprisé par Dieu, il est plus méprisé que le cochon. Aux yeux de Dieu, il devient aqbaha wa akhsa'a min al-khinzir. Dit Sayyidina Omar. C'est pour ça que notre mère Aïcha Radhiallahu disait: vous oubliez ou vous négligez un des actes des adorations les plus importants. Et puis elle a dit: il s'agit de la modestie. Elle considère la modestie comme l'ibadah. Qalat radhiallahu anha: innakum la taghfaluna an afdal al-ibadat. Vous négligez, vous êtes négligent par rapport à la meilleure des actes d'adoration. At-tawadhu. La modestie. C'est un acte d'adoration. Rappelez-vous, on a dit l'ibadah fi mafhum al-'am. Sayyidna Omar, n'oubliez pas, innahu min al-muhaddithin. Qu'est-ce que muhaddithin? Parmi les gens par l'intermédiaire desquels Dieu parle aux hommes. Il a dit, par le prophète, dans chaque communauté, il y a un par lequel Dieu exprime la vérité, et celui de ma communauté, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est clair? Donc voilà. Donc c'est une charge très lourde. Mais il faut, si Dieu vous la confie, c'est qu'il vous aime, parce qu'il vous a mis au service de sa création. Mais il faut être toujours en état d'éveil. Regardez ce que pensent les gens de bien de vous. Là, vous mesurez la qualité de vos actions, et de votre travail, et de votre cheminement. De développer en vous la qualité de la modestie. Tawab. Tawab. C'est très important. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Si vous avez une ou deux autres questions, sinon on vous dit inchallah. Naam, tafadhal. C'est-à-dire, tu vas t'adresser aux gens individuellement.
Individuellement.
Oui, c'est-à-dire, tu côtoies une personne et tu sais de cheminer avec elle, un accompagnement individuel. Il a fait tout.
Ouais.
Le prophète, il a fait da'wah al-fardiyya ou da'wah al-jama'iyya. Alayhi salatu wa salam. Un individu l'interpelle, s'occupe de lui comme il s'est occupé des groupes. Donc, la da'wah, elle a multiples facettes. Soit tu fais un travail, par exemple, une conférence, ça c'est une da'wah jama'iyya. Ou da'wah al-fardiyya, tu choisis un individu, deux individus, et tu les accotoies, tu les accompagnes, parce que tu vois en eux une possibilité de cultiver en eux des principes qui vont être utiles avant tout à eux-mêmes. Parce que da'wah, c'est pas mettre l'autre au service d'une cause uniquement. Ça, c'est, moi, je trouve que c'est très dangereux. Là, ça devient de l'endoctrinement, de la manipulation. C'est ce qu'on voit autour de nous. Avant tout, lorsque tu es tadouk insan, c'est pour qu'il soit utile à lui-même, qu'il sauve son âme de l'enfer. C'est ça la première mission. Nous sommes d'accord? Et donc, le souci de l'individu. Donc, ne faites pas de l'endoctrinement, c'est très dangereux et c'est malsain et c'est malhonnête. Moi, je m'oppose foncièrement à ça. Tu vois quelqu'un, on le côtoie, et puis demain, il se trouve dans un engrenage alors qu'il ne sait même pas pourquoi il est dedans. Et combien de fois d'individus on les avait vus endoctrinés de la sorte, lorsqu'il prend conscience qu'on l'a impliqué, il se révolte, se rebiffe et il coupe tous les ponts, même avec l'islam. Parce qu'on l'a exploité, on s'est moqué de sa naïveté. Nous, on n'est pas ça, c'est pas notre but. Hein. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes des musulmans. On appelle les gens à Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'adoration de Dieu. J'insiste. Faites attention de ne pas faire en sorte que lorsque vous appelez les gens à Dieu, comme si vous leur demandez d'avoir une carte de parti. On revient à ce qu'a dit Sayyidina Rabi ibn Ab. Nous, on a dit, ibadat Allah. Moi, je m'oppose personnellement, foncièrement, aux gens qui ne travaillent que dans un cadre d'une appartenance, et tu prends ma couleur, sinon je ne t'accepte pas. C'est très dangereux. On a quelque chose de commun, c'est din Allah, l'islam. Qu'est-ce qu'on veut, nous, aslamat le mujtama ou non? Que les gens soient musulmans. Et puis, qu'est-ce qu'on veut de plus? Il faut que chacun ait sa carte. Mais je m'oppose foncièrement à ça. Personnellement, je n'accepte pas. Et c'est une des causes de ce qui arrive aux musulmans. L'esprit de clan, l'esprit de parti, tout ça, et on est loin, on n'a pas compris. Ana ad'u ilallah. Wa da'wat al-islam, elle est wahida. Dans son essence. Tout à l'heure, tu as dit les méthodes, oui, mais la finalité, c'est qui? Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui me dit Ad'ou ila Allah et il n'est pas d'accord avec moi lorsque je dis que Dieu est mon but. Rayatuna wa Rabbul Alamin. Alors, pourquoi est-ce qu'on se diverge? Si tous on cherche Dieu, et je ne suis pas obligé d'avoir une carte. Ou quoi? Demain, alors, on va rentrer dans la mosquée avec une carte. Tu es parti de mon groupe, tu ne fais pas, tu n'entres pas. Ou Dieu dit, Ana al-masajida. Lillahi. Oui ou non? Message, les messages, je compte. Laisse le bout de Allah, ou la bout d'Abdallah ou Zayd. Si on va fonctionner comme ça, Abdullah al-Salam, il vaut mieux. Alors, c'est ça qui. Donc, non. Ta'watun nas, c'est Lillah. Lillah. Et eux, ils connaîtront la vérité. Ya'rafu al-haqqu bi ahliya ou ya'rafu al-ahluhu bil-haqq. L'haqq est le qu'on cherche, nous, pas les individus, hein. C'est la vérité, hein. Nous sommes soumis à la vérité, nous travaillons pour la vérité. Et c'est ça qui, c'est pour ça qu'on voit des gens, même s'ils ne partagent pas, si je peux dire, mais je ne sais pas moi, prenons l'imam Nawawi, rahimahullah. Il était de tendance juridique, je parle, chafiite. Mais toutes les écoles et toutes les tendances sont unanimes sur la valeur de l'homme et son respect. Mais vous savez quelle était la qualité de l'imam Nawawi, rahimahullah. C'est ça, il faut s'inspirer de ce modèle-là. Il a choisi une méthodologie, une méthode juridique et autres, mais il avait le souci de musulmans et de l'islam. Et tout le monde dit l'intégrité, l'objectif de cet homme est indiscutable. Indiscutable. Rahimallahu ta'ala. C'est comme ça qu'il faut faire avec lui. Je crois que c'est ce que j'ai appris de la religion. Allahu a'lam. Être avec tous ses frères de toutes sortes, de toutes lectures, si je peux dire, dans le sens, c'est que nous avons un but commun, c'est d'arrêter. S'ils refusent, pas tant pis pour eux. On garde cette optique-là. Hein. On garde cette optique-là. Non, si vous avez d'autres interventions, sinon.
Il faut aussi la tauba, mais sans. Sans péché.
Non, j'ai dit, le taouba n'est pas forcément comme nous, à la comprend. C'est parce qu'on a fait un péché, alors on va se repentir. La taouba, c'est une évocation permanente de la valeur de rester toujours sur le chemin de Dieu. Et alors, en longueur de journée, tu peux n'être pas pécheur et tu dis, l'homme est tout élevé. Que veut dire l'homme tout? Seigneur, je reviens vers toi sans arrêt. C'est un retour.
Mais à ce moment-là, il n'y a pas du tout de condition.
Non, ça n'a rien à voir. Ici, je parle de taouba dans toute sa grande dimension. C'est un spirituel, c'est ça. Et c'est cet état spirituel que le prophète avait exprimé en disant « Inni atubu ilallahi, je me repens à Dieu x fois par jour. » Quoi, le prophète commettait des péchés? Non. Mais c'est pour dire « Je me repositionne. » Ça va? Sallallahu ala lakuna minhum. An yaghfira lana taqsirana wa azzana wa zayghana wa ma huwa a'lamu bihi minna. Amin ya rabbal alamin. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين